Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous parlerons de cette série de rencontres hier à Goma entre la chef intérimaire de la MONUSCO et différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre gouvernement congolais et AFC en 23. Pour Viviane Van Depper, l'appui de la MONUSCO sera progressif. Vous la suivrez dans ce journal. L'épidémie de rougeole officiellement déclarée au Kasaï oriental. La province a enregistré plus de 700 cas cette année, dont 10 décès. L'heure est à la sensibilisation de la population à la vaccination et à ne pas traîner avec des cas à la maison. Nous parlerons aussi de l'examen d'État. Près de 13 480 candidats prennent part à l'épreuve préliminaire lancée ce samedi à travers le pays. Notre invité est Josué Kaboué Mukanza, coordonnateur de la cellule des études de la Direction générale des impôts DGI. Il vient rappeler aux contribuables les obligations fiscales majeures dont l'échéance est fixée à demain, 15 février. Bienvenue à cette édition du journal de midi qui part de Goma avec cette série de rencontres tenues hier vendredi entre la chef intérimaire de la MONUSCO et différentes parties prenantes au processus de paix. Au centre des entretiens, la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC en 23. Viviane Van Depper, en séjour à Goma depuis jeudi, s'est entretenue successivement avec le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL élargi à la MONUSCO ainsi qu'avec la coordination politique de l'AFC en 23. S'exprimant devant la presse à l'issue de ces échanges, elle a souligné que l'appui de la MONUSCO à ce mécanisme de suivi du cessez-le-feu sera progressif. Viviane Van Depper, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Nos échanges ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par l'AFC 1-23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, avec qui je me suis entretenu ce matin. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Sur terrain en Ituri, une attaque attribuée à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, a visé hier vendredi un poste de police à Fataki, dans le territoire de Djougou, c'est à 85 km au nord de Bounia. Bilan provisoire, un policier tué, un autre blessé et trois armes emportées. Des affrontements ont aussi été signalés à Lalou et Boulé entre les FARDC et cette milice, faisant un mort et plusieurs blessés. Des sources locales demandent au gouvernement de démanteler ce groupe armé qui déstabilise la région. Isaac Raymond nous décrit la situation.
Les miliciens de la CRP ont intensifié leurs attaques cette semaine contre les positions des forces de l'ordre dans plusieurs localités du territoire de Djougou, notamment Fataki, Boulé et Lalou. À Fataki, l'attaque contre un poste de police a coûté la vie à un policier. Un autre a été blessé et trois armes ont été récupérées par les assaillants. L'intervention des FARDC a permis de repousser les miliciens hors de ces centres commerciaux situés sur la route nationale numéro 27. Les trafics et les activités économiques ont été perturbés pendant plusieurs heures. La veille, des combats ont également été signalés à Boulé. Une femme blessée a été transférée pour des soins à Fataki. Un militaire des FARDC a été tué à Lalou, toujours à Djougou. D'autres personnes ont été blessées aussi bien dans les rangs de l'armée que parmi les miliciens de la CRP. Par ailleurs, des obus ont été tirés par des présumés miliciens de la CRP en direction de l'école primaire Tuungane, située près de Kpangba et des sites de déplacés Tuungane. Les projectiles ont endommagé des vitres sans faire de victimes. Cependant, ces incidents ont provoqué une vive panique au sein de la population qui redoute une recrudescence des affrontements. Des sources locales appellent le gouvernement à prendre au sérieux les menaces que représente cette milice et à engager des mesures concrètes pour son démantèlement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
En réaction à ces attaques, le gouverneur de province rassure la population. Le général Johnny Luboya affirme que l'armée traque activement les miliciens de la CRP afin de restaurer l'autorité de l'État dans la zone. Il précise que les FARDC affinent leur stratégie pour éviter des pertes civiles, accusant l'ennemi d'utiliser les habitants comme bouclier humain. Le gouverneur assure également que les forces loyalistes sont déterminées à rétablir la paix dans l'ensemble du territoire de Djougou. Le général Johnny Luboya au micro d'Isaac Raymond.
Nous devons faire très attention aux dommages collatéraux. Ces criminels-là utilisent les déplacés, des vulnérables. Ils attaquent des sites des déplacés et ils vont se cacher dans les sites des déplacés. Et nous, en tant que gouvernement, quand nous ripostons, nous ne pouvons pas riposter n'importe comment. Dès que nous voyons que la population est en danger, on se retire. On ne se retire pas parce qu'ils sont forts. Non, loin de là. Je crois que s'ils se mettent ça en tête, ils vont déchanter. Je crois que vous me connaissez. Quand je prends la décision, là, c'est un message que j'envoie. Je dis non, ne faites pas ça. Et j'ai dit à la population de Boulé, parce qu'ils sont vraiment résilients, ces vulnérables-là, ces victimes-là, ce sont des victimes. Ils sont deux fois victimes. Je leur dis, je ne peux pas leur demander de prendre leur mal en patience, mais je leur dis seulement d'être serein. Et d'ici là, ça va s'arrêter.
En conflit oppose depuis plus de deux semaines des agriculteurs à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, dans la zone agricole de Mayangos. Nous sommes dans les territoires de Beni, au nord Kivu. Face aux tensions persistantes, l'administrateur du territoire de Beni a réuni jeudi les parties en conflit. C'est dans le but d'apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente afin d'éviter de nouvelles altercations. Toutefois, les protagonistes plaident pour l'implication du gouvernement provincial et du pouvoir central en vue d'une solution durable. Marc Marot nous en dit plus.
Cette rencontre intervient après une série d'altercations entre les riverains et les éco-gardes du parc national de Virunga. Plusieurs agriculteurs ont été interpellés pour exploitation illicite des bois et fabrication de charbon à l'intérieur du parc. Des actes dénoncés par le chef coutumier qui évoquent des irrégularités dans la délimitation du parc. Mwami Pascal Bamkoka, chef coutumier de la chefferie de Watalinga.
Les chefs coutumiers exigent que la commission de l'ICCN et la commission provinciale ne puissent pas spolier les terres de nos ancêtres, que les chefs savent qu'ils sont responsables des terres pour leur population qu'ils encadrent.
De son côté, l'ICCN réaffirme sa détermination à mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les parcs. Selon l'institution, certaines pratiques agricoles et forestières constituent une menace grave pour l'écosystème. Rodrigue Magaruka, chargé de la lutte anti-braconnage à l'ICCN, précise.
Nous avons catégorisé les personnes qui sont impliquées dans la destruction méchante du parc national de Virunga. En première position, ce sont les machinistes des tronçonneuses. Tout ce qui est qui tire industriel, nous allons procéder à la prochaine opération par mettre hors état de nuire ces genres de cultures qui nuisent terriblement à l'écologie des écosystèmes.
La société civile plaide pour l'implication des autorités provinciales et nationales afin de résoudre durablement la question de la délimitation du parc de Virunga. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Santé, l'épidémie de rougeole officiellement déclarée au Kasaï oriental, c'est le gouverneur de province qui l'a annoncé mercredi soir. Cette décision intervient après la confirmation du laboratoire national de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Selon Jean-Paul Lomboué et Capo, 706 cas dont 10 décès ont été enregistrés rien que pendant les 5 premières semaines de cette année. Face à cette situation préoccupante, l'autorité provinciale appelle les parents des enfants âgés de 0 à 23 mois non vaccinés à les amener sans délai dans les centres de santé le plus proche pour recevoir le vaccin. Le gouverneur exhorte également les leaders d'opinion à relayer ce message afin de toucher toutes les couches de la population et renforcer la sensibilisation. Esther Dalafina nous propose cet extrait de la déclaration du gouverneur Jean-Paul Mbouébé.
Chers compatriotes, la rougeole est une maladie infectieuse et dangereuse caractérisée par la fièvre, la toux, les éruptions cutanées, la conjonctivite avec larmoiement, la rougeur des yeux, une grande fatigue, une forte fièvre et plusieurs complications. Notre province a déjà connu des épidémies de rougeole, dont la plus meurtrière en 2022 ayant atteint 12 939 personnes et causé 134 décès. Une fois de plus, la province est frappée par la même épidémie de rougeole et les statistiques sanitaire montre une évolution vertigineuse des cas. Rien que pour les 5 premières semaines de l'année 2026, la province compte déjà 706 cas, dont 10 décès. La présence de la rougeole est bien confirmée par le laboratoire national de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Sur ce, j'appelle toute la population est-kassaïenne à la vigilance totale en procédant chacun là où il habite, à l'identification et à l'orientation de tout enfant présentant des signes ci-dessous vers la structure de santé la la plus proche pour le diagnostic et les soins appropriés. Il s'agit des signes suivants: fièvre, écoulement des yeux, écoulement nasal et boutons sur le corps.
Et une recrudescence du cas de la maladie d'Mpox est signalée dans le Haut-Katanga. La ministre provinciale de la Santé à l'intérim appelle la communauté à observer des mesures de prévention contre cette maladie et à se faire vacciner gratuitement. Dans une déclaration hier vendredi, Valenciane Mumba rappelle qu'une campagne de vaccination a déjà été organisée dernièrement dans 5 zones de santé du Haut-Katanga qui ont notifié plus de cas de Mpox. Elle souligne cependant que la majorité de la population est exposée à un risque élevé de contracter cette maladie. Pour la Munanga, nous en dit plus.
La ministre provinciale de la Santé à l'intérim du Haut-Katanga a tenu à rappeler que la Mpox est très contagieuse et dangereuse. Elle peut causer de graves complications et même provoquer la mort. Et actuellement, les moyens simples, sûrs et efficaces pour se protéger contre cette maladie, c'est la vaccination, insiste Valérienne Mumba-Kiboko, ministre provinciale à l'intérim de la Santé du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial, à travers le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé du 2 au 12 février dernier une campagne gratuite de vaccination contre la Mpox dans 5 zones de santé du Haut-Katanga qui ont notifié plus de cas. Il s'agit de la zone de santé de Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et Sakanya. La ministre précise que cette campagne de vaccination a couvert 19% des zones de santé du Haut-Katanga. Elle invite les membres des communautés d'amener dans des centres de santé les plus proches leurs membres de famille qui présentent des signes de cette maladie. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Des criquets ravageurs envahissent les jardins des paisibles citoyens dans la ville d'Isiro. Ces insectes dénommés localement Manzabe déciment des cultures, notamment au quartier Ndabala 2, situé au cœur du chef-lieu de la province du Haut-Uele. Ils inquiètent la population, lance un cri de détresse en direction des autorités afin de lutter contre ces criquets. Le point avec vous, Jacques Moukonkolé.
Depuis quelques jours, ces criquets ravageurs sont perceptibles en grand nombre dans les cultures maraîchères, particulièrement sur les feuilles de manioc. Celles-ci font partie des aliments de base les plus consommés par bien des ménages. Les conséquences de cette invasion se font déjà sentir, notamment la faible croissance des feuilles de manioc, les champs dévastés, ainsi que l'inquiétude croissante liée aux risques sanitaires. À cet effet, le directeur général de l'ISTEM Isiro, le professeur Sylvestre Gambademoke, interdit la consommation des aliments végétaux affectés par les larves des criquets. Ces légumes sont devenus amers. Cette amertume traduit du poison qui se propage même dans les tubercules de manioc. Ceux-ci ne devraient pas être consommés car ils contiendraient du poison, déclare ce biologiste. Pendant ce temps, la population se tourne vers les autorités afin de solliciter leur implication dans la lutte contre l'invasion des criquets ravageurs. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Dans Seine-Maur, près de 13 481 candidats prennent part à l'épreuve préliminaire de la 59e édition de l'examen d'État lancé ce samedi à travers le pays. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale souligne que le lancement de cette session témoigne de la vitalité du système éducatif national. Raissa Malou salue également la résilience des candidats du Nord et du Sud Kivu qui passent ces examens dans un climat de tension. Notez que cette année, 251 centres d'examen sont ouverts. Blaise Ndongala Mayanda nous en dit plus.
Les doyens des candidats engagés à cette session préliminaire est âgé de 63 ans, tandis que le plus jeune en compte 17 ans. La directrice de la province éducationnelle Moamba, Astrid Nambouyi, note que cette épreuve permet au gouvernement de sélectionner les autodidactes susceptibles de participer aux examens hors session et à la session ordinaire. Elle salue le courage et l'abnégation des candidats ayant décidé de parachever leur cycle scolaire. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale assure de l'accompagnement du gouvernement aux côtés des candidats du Nord et du Sud Kivu qui représentent à ASL 25% des effectifs avec au moins 3351 inscrits. Raissa Malou.
Malgré les épreuves, vous représentez à vous seul 25% des effectifs nationaux. Votre résilience est le plus beau message d'espoir pour notre pays. L'État restera à vos côtés pour garantir que votre parcours se poursuivre dans les meilleures conditions. Je vous invite donc à aborder ces épreuves avec sérénité et discipline. Travaillez avec honnêteté, car la valeur de votre diplôme dépend de l'intégrité de votre effort.
Elle recommande par ailleurs aux surveillants, encadrés et inspecteurs de travailler avec rigueur et justice afin de préserver l'image de l'examen d'État qui, selon elle, doit rester le miroir de l'excellence et du mérite réel.
Du côté de la justice, dans la province du Kwilu, au moins 5 personnes sont mortes en prison à Bulungu cette année. C'est la conséquence de la carence des magistrats dans cette partie du pays. Les dossiers de plusieurs détenus ont déjà été fixés devant le juge, mais restent en suspens car depuis le 15 décembre dernier, le tribunal de grande instance de Bulungu a cessé de fonctionner. Le président de la société civile de Bulungu, maître dirigeant Munzende, dénonce une violation du droit à la justice. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean-Claude Otangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, partenaire de Radio Okapi.
Chose déplorable est que le tribunal de grande instance de Bulungu n'a que le président qui est chef de juridiction avec un seul juge et on assigne un défenseur judiciaire pour compléter les sièges. Et nous sommes en train de passer au moins plus de deux mois. Les dernières audiences tenues devant le tribunal de grande instance de Bulungu, c'était le 15 décembre 2025. Et jusqu'aujourd'hui, aucune affaire est passée. Mais nous venons de constater que depuis les mois de décembre jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs cas de décès de détenus qui n'ont pas connu leur sort, mais qui sont décédés en cours d'instance pour les uns, pour les autres. Le dossier n'est pas encore fixé. Même au sein de la cour d'appel du Kwilu, on pouvait prendre ne fût-ce qu'un magistrat au niveau du tribunal de grande instance de Kikwit, afin de faciliter le bon fonctionnement de la justice.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, au moins de 24 heures après l'annonce par le président Cyril Ramaphosa du déploiement de l'armée pour soutenir la lutte contre le crime organisé, une opération policière s'est déroulée vendredi hier donc dans la province du Cap-Occidental. Les autorités policières locales se disent prêtes à accueillir des membres des forces de défense. Nous nous réjouissons de l'arrivée des renforts supplémentaires sur le terrain. L'annonce de la formation des 5500 policiers supplémentaires est également une excellente nouvelle. Le déploiement de l'armée n'est qu'une solution temporaire. Une fois les zones stabilisées, il faudra assurer la pérennité de ces progrès, tout en poursuivant nos efforts, a expliqué Tembi Sile Patekile, commissaire de police du Cap Occidental.
L'invité.
La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables plusieurs obligations fiscales majeures dont l'échéance est fixée au 15 février 2026, donc demain, exceptionnellement reportée au lundi 16 février puisque la date tombe un dimanche. Impôts sur le revenu des personnes physiques, TVA, retenue à la source ou encore déclarations annuelles liées aux rémunérations de 2025. Ces obligations concernent aussi bien les entreprises que les particuliers. Pour aider les contribuables à mieux comprendre ce qu'ils doivent déclarer, comment le faire et dans quel délai, nous recevons Josué Kaboué Mukanza, coordonnateur de la cellule des études de la DGI. Ils s'entretient avec Justine Moussaopondé.
Monsieur Josué Kaboué, bonjour.
Bonjour madame.
Pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs qui sont les contribuables concernés par cette échéance?
Je voudrais vous préciser d'abord pour une petite histoire que cette échéance du 15 février elle est différente des autres échéances. Parce que, pour rappel, dans notre pays, il y a une réforme de la fiscalité directe qui a vu le jour depuis le 30 novembre 2023. Le président de la République avait publié une loi, et c'est la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. Et un délai de 24 mois était donné pour la mise en œuvre de cette réforme. Donc, c'est à dater du 1er janvier 2026 qu'il y a la mise en œuvre de cette réforme. Alors, comme je le disais, au 15 janvier 2026, on a eu à déclarer les impôts qui sont relatifs aux revenus 2025. Mais c'est pour la première fois que la réforme qui a été promulguée sera mise en œuvre, parce que c'est alors qu'on va déclarer pour la première fois ces nouveaux impôts. Donc, le système d'imposition directe, le système d'imposition cédulaire qui était en place jusque-là, sera remplacé à cette échéance par les nouveaux impôts.
Et quels sont les principaux impôts visés par cette échéance?
Il s'agit des retenues à la source de l'IRPP, mais bien sûr des autres prélèvements, parce qu'il n'y a pas que les deux principaux impôts, il y a aussi trois autres prélèvements. Il y a donc le prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, le prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents et le prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes. Ça, ce sont les nouveaux impôts, mais n'oubliez pas la taxe sur la valeur ajoutée qui a toujours été déclarée toujours le 15 de chaque mois. Elle sera aussi déclarée ce lundi 16.
Et qu'est-ce qui change dans cette nouvelle nomenclature ?
Beaucoup de changements parce que l'ancien système, c'était un système cédulaire. C'est-à-dire, les revenus étaient imposés par cédule, par nature des revenus. Mais pour le moment, en ce qui concerne les personnes physiques, il y a la sommation de tous les revenus de la personne physique qui sont imposés. Donc, comme on dit, l'IRPP, c'est un impôt global, un impôt qui frappe l'ensemble des revenus de la personne physique. Mais ça dépend maintenant de la nature des revenus catégoriels qui composent ce revenu global. Et l'IRPP, naturellement, prend en compte six catégories de revenus. Vous avez d'abord les revenus salariaux et revenus assimilés qui seront concernés à l'échéance. Vous avez les revenus des capitaux mobiliers. Vous avez les plus-values réalisées par la personne physique. Ça, c'est une innovation parce que ces revenus n'ont jamais été imposés par ailleurs. Et vous avez les bénéfices. Et les bénéfices, vous en avez trois sortes aussi. Mais les bénéfices ne seront pas concernés à cette échéance.
Vous avez parlé des obligations liées au personnel expatrié. Ce qui est différent ou qui remplace l'IR?
Effectivement, ça remplace l'IR, mais le fonctionnement, il est presque le même.
Quelles sont les procédures à suivre pour déclarer et payer ces impôts?
Parce qu'il s'agit de redevables légaux, c'est-à-dire ceux qui retiennent à la source l'impôt pour le reverser. La démarche, elle est la même. Les redevables doivent aller auprès de banques ou institutions financières pour payer, avoir les preuves de paiement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez de sensibilisation sur cette réforme? Est-ce que les contribuables, ceux qui sont appelés à payer tous ces impôts, ont été vraiment sensibilisés?
D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a un principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». La loi a été promulguée dans le journal officiel de la République démocratique du Congo, ça c'est un. La DGI a sensibilisé avec tous ses experts à travers toute la République. Et nous sommes de ceux-là qui avons parcouru le pays pour sensibiliser. Et nous avons formé effectivement aussi la population et nous continuons à le faire. Et je pense que la population est sensibilisée. Et surtout que pour cette échéance du 15 qui tombe le lundi 16, ce ne sont pas des novices, mais ce sont des gens qui sont habitués à le faire. Je pense qu'il n'y aura pas de problème et nous attendons à beaucoup de recettes.
Monsieur Josué Kabwe Mukanza, merci.
Merci, madame.
Monsieur Josué Kabwe Mukanza, coordonnateur de la cellule des études de la DGI, la Direction générale des impôts. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dudoni Yangasa avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end. Rassam Sati sera là pour vous informer pour le reste de l'après-midi.